dans Transmission Intime, le podcast féministe du Centre culturel Moucronois. Je m'appelle Gwenaëlle et je serai la voix de Transmission Intime. Cet épisode fait mention de violences sexistes et sexuelles. Si cela peut réveiller une souffrance ou un trauma, sentez-vous libre de ne pas poursuivre cette écoute. Le Centre culturel présentait en novembre dernier Les yeux noirs, mis en scène par Jessica Gazon pour la compagnie de la Bête Noire. Il s'agit de trois textes sur les violences conjugales, joués par Sébastien Bonamy et Céline Delbecq. C'est à cette dernière que sera consacrée cette première partie de l'épisode. Pour des raisons pratiques, l'enregistrement de cette première partie a été réalisé à distance, altérant quelque peu la qualité du son. Bonjour Céline Delbecq.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va bien. Je te propose de commencer par les présentations. Dis-nous tout en quelques mots.
Qui je suis?
Voilà, qui es-tu?
Donc, je m'appelle Céline, je travaille au sein d'une compagnie de théâtre pour laquelle j'écris et je mets en scène principalement des spectacles donc depuis 2008, donc ça fait 15 ans, un petit moment déjà, et des spectacles qui ont essentiellement des thématiques sociales occidentales vraiment ancrées.
Donc tu es passée au Centre culturel Moucronois avec une pièce qui s'appelait « Les yeux noirs ». Il s'agit de trois textes mis en scène et joués par deux comédiens-comédiennes. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet ?
Donc, Les yeux noirs, effectivement, sont trois textes que j'ai écrits à trois périodes très différentes. Donc, le premier texte s'appelle « Phare ». Je l'ai écrit en 2016, c'était une commande de la SACD France, qui organise chaque année un espèce d'événement qui s'appelle « Les intrépides » et qui, en fait, commande à six femmes différentes un texte de 10 minutes sur une thématique particulière. Et moi, c'était la thématique du courage. Et donc, j'avais écrit ce monologue qui était le courage d'une femme qui quitte un conjoint violent, en fait. Du courage qu'il faut, alors qu'on sait que 9 fois sur 10, les femmes qui sont tuées, par leur conjoint, c'est au moment où elles les quittent. Donc, voilà, ça, c'était le premier texte. Ensuite, j'ai écrit un second texte, mais vraiment sans penser qu'un jour, ils seraient réunis dans un même livre et dans un même spectacle. Et ce deuxième texte, c'est celui qui apparaît en troisième dans le spectacle, en deuxième dans l'édition du livre, puisque le texte est édité chez Lanzmann. Dans le spectacle, c'est le troisième texte, c'est un dialogue entre elle et lui. Et pour moi, ça, c'était un texte qui creusait la question de la jalousie. Vraiment sur comment, à partir de détails, on peut arriver à quelque chose d'absolument monstrueux, et à partir d'une blessure aussi, d'une blessure d'abandon, d'une blessure de... Peu importe, mais en tout cas, c'était ça qui m'intéressait. C'était la question de la jalousie plus que celle de la violence. Sauf qu'en creusant la question de la jalousie, on arrive à la violence. Et le troisième texte, je l'ai écrit spécialement pour ce spectacle, puisque c'est la metteuse en scène du spectacle qui s'appelle Jessica Gazon. C'est le seul spectacle de la compagnie que je n'ai pas mis en scène, moi, puisque je joue dedans. Et donc, c'est Jessica qui a regroupé ces deux premiers textes et qui a dit, mais on pourrait les mettre ensemble dans un spectacle. Et donc, il manquait du coup un volet. Et donc, j'ai écrit le troisième texte pour le spectacle. Et pour Sébastien Bonamy, donc le comédien, je savais à ce moment-là que c'est lui qui jouerait le spectacle. Et donc, ce troisième texte, c'est le regard d'un enfant devenu adulte, mais qui a assisté à cette violence de son père sur sa mère, et qui a tendance à la reproduire et qui se bataille pour ne pas que ça le recouvre.
Comment tes textes ont rencontré la mise en scène de Jessica Gazon? Comment s'est montée la collaboration?
Parce que j'avais une carte blanche du Rideau de Bruxelles, mais c'était bien avant, puisqu'entre-temps j'ai écrit un autre spectacle. Et dans le cadre de cette carte blanche, j'avais très peur parce que j'avais peu de temps et que je suis très lente dans l'écriture. Et donc, Jessica est une amie, en fait. Et elle m'avait dit, mais je suis sûre que tu as plein de textes dans tes fonds de tiroir. Et j'ai dit, oui, j'ai plein de textes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés autour de la table à lire tous mes textes de fonds de tiroir. Et c'est elle qui a rassemblé ces textes ensemble à ce moment-là.
Tu peux nous parler un peu de la mise en scène de Jessica Gazon? C'est très épuré et il y a l'importance aussi des sons.
Oui, elle a travaillé avec Aurélie Perret pour la lumière, la scénographie, avec Ségolène Néroux pour la composition sonore. Et c'est difficile de parler de la mise en scène puisque je suis à l'intérieur. Mais de mon impression, enfin en tout cas, je peux dire à quel point c'est agréable de travailler avec elle. Voilà, je peux parler de l'intérieur, mais du rendu. En fait, je n'ai jamais regardé la captation vidéo et j'attends que le spectacle ait fini de tourner parce que je pense que ça va me faire horreur de me voir jouer. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça fait de l'extérieur, en fait. Je n'ai jamais vu le spectacle. Mais je pense que c'est très sobre et que c'est sans détour à la fois. C'est-à-dire que c'est très, voilà, ça, il n'y a aucun faux semblant. Je pense que, voilà, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de, je sais pas comment on pourrait s'imaginer, se représenter de ce que peut être le théâtre. Il n'y a pas de grands costumes, de grands décors. Enfin, c'est vraiment, c'est très brut, très épuré, très simple, très vrai. Je pense qu'il y a une vérité. Jessica, dans sa mise en scène, elle a cherché cette vérité, je crois.
Alors, quand tu es venue à Moucron, vous avez réalisé un bord de scène. Donc, les gens pouvaient, vous poser des questions. Et du coup, tu as rencontré ton public et j'aimerais savoir quel type de public vient voir cette pièce de théâtre.
Oh, il y a un peu de tout et puis on adore ça. Enfin, on a aussi vu jouer le spectacle devant des adolescents, on a joué devant... après, voilà, moi j'aime quand on est aussi hors de Bruxelles parce que c'est pas du tout le même public ici à Bruxelles. Enfin bon, voilà, moi j'habite Bruxelles et c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup de théâtreux, entre guillemets, qui vont au théâtre. On connaît les gens nous connaissent. On devient presque une grande bande d'amis. Et puis donc, dès qu'on quitte un petit peu ça, c'est là où on est vraiment en contact. Et moi, je me rappelle très bien de ce bord de scène à Moucron. Pour moi, c'était un des plus beaux parce qu'on a parlé de notre propre part de monstruosité. Je me rappelle qu'il y a eu cette question-là qui était au centre de cette rencontre où quelqu'un m'avait demandé si, pour écrire ce texte, j'avais interviewé des gens et j'avais répondu à ça, non, la seule personne que j'ai interviewée, c'est mon propre monstre, ma propre part de monstruosité, en faisant écho au fait que moi, j'ai déjà été jalouse et que donc j'ai été creusée là-dedans, quoi, sans avoir jamais été violente. Mais enfin, si je pousse, c'est là que ça mène. Et ce qui était génial à cette rencontre, c'est que du coup... Le fait de moi oser dire que j'ai cette part monstrueuse en moi, ça a ouvert sur ça. Et je me rappelle qu'il y a deux personnes à la suite de ça qui ont parlé de leur propre part de monstruosité. Et ça n'était jamais arrivé avant. Donc voilà, c'est un bord de scène dont je me rappelle et qui me... Parce que c'est des rêves... Enfin, je trouve que le bord de scène, c'est... En plus, c'est pas toujours facile parce qu'on est fatigué au moment où il a lieu. Mais c'est un travail aussi, en fait. Parce que nous, c'est pas notre métier. Je veux dire, on n'est pas psy, on n'est pas machin, et parfois il se passe des choses très, très, très régulièrement. Il y a des gens qui nous confient, qui ont vécu des relations, enfin, ce système en tout cas, qui ont été confrontés à ce système de la violence, et on n'est pas préparé à ça, donc ça se travaille. Je trouve que de bord de scène en bord de scène, on réfléchit et on en parle autant que de la représentation quand on sera bien en coulisses, quoi.
Est-ce que pour toi, du coup, le théâtre peut apporter une solution à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles?
Ah, une solution, mais j'ai pas cet espoir. Mais par contre, du dialogue, oui. Et puis une solution contre le système, non. Mais une solution pour certains individus. Je dirais pas une solution, mais peut-être une petite porte entrouverte. Un tout petit truc, quoi. Une toute petite ouverture, peut-être, pour une personne dans une salle. C'est ce qu'on espère. Mais le système ne changera pas avec un spectacle, ça c'est sûr. Avec 500 spectacles, peut-être. Non, 500, c'est trop peu. Avec 5 millions de spectacles, peut-être. Mais...
J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ton parcours. Tu as notamment fait le Conservatoire de Mons.
Oui.
Tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à ce type d'études? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'est par hasard?
Moi, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. À la base, pour vaincre une certaine timidité. Donc, c'est pour ça que très vite, en fait, moi, enfin, j'ai un rapport particulier au théâtre. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux pas m'en passer et à la fois, je peux être très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise sur scène. Enfin, vraiment, là, c'est parce que c'est Jessica, parce que c'est avec Sébastien, c'est un peu la famille que... mais je pense d'ailleurs que j'ai toujours fait du théâtre pour ce côté un peu fan-troupe. Et je pensais d'ailleurs que le théâtre professionnel, c'était ça. Je pense que j'avais en tête les baladins du miroir et c'est tout. Et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait dans la réalité et à quel point c'est aussi une immense solitude. Mais... Donc, oui, j'ai toujours été dans cette espèce de... Et quand j'ai fait le conservatoire de Mons, je ne savais pas trop. En sortant des humanités, là, j'avais envie à la fois d'aller dans l'artistique et à la fois, j'adorais les mathématiques, j'adorais les romanes, le français. En fait, j'aimais tout. J'avais plein de désirs et j'aimais tout. Mais c'est... Voilà, je ne sais pas. Je pense que j'ai voulu faire le concours d'entrée pour ne pas avoir de regrets, persuadée que je ne serais pas prise, évidemment. Et puis voilà, quand j'ai été prise, ma vie, elle a basculé à cet endroit-là, quoi. Et elle a rebasculé une deuxième fois quand j'ai eu un cours d'écriture avec Luc Dumont. Donc Luc Dumont qui travaille aux Esthétiques Théâtre, qui est une compagnie théâtre jeune public et au sein de laquelle, lui, il écrit et met en scène. Et on a eu un module de 3 mois, de 2 fois 3 mois avec lui. Le premier, c'était 3 mois où il nous dirigeait dans des ateliers d'écriture. Et le second module, c'était l'année d'après, on mettait en scène les textes qu'on avait écrits. Et ça, c'est clair que moi, là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est ça que je suis venue foutre ici, quoi. Enfin, je me sens à ma place. » enfin je suis pas mal à l'aise, enfin voilà. Et donc très rapidement, enfin voilà, là j'ai écrit un texte qui s'appelait Poussière, et puis à la fin de mes études à Mons, j'ai écrit un texte dans le cadre de mon mémoire de fin d'études qui était le Hit, et donc qui est devenu le premier spectacle qui a tourné de façon professionnelle grâce à Luc Dumont d'ailleurs, qui a pris le spectacle sous l'aile de sa compagnie, le Zététique Théâtre. Et donc grâce à lui et grâce à ça, j'ai rencontré Lanceman qui était l'éditeur et qui est toujours mon éditeur aujourd'hui. Le spectacle a beaucoup tourné parce que c'était le Zététique Théâtre. Et donc voilà, toutes les portes sont un peu ouvertes comme ça, quoi.
Donc l'écriture et la comédie sont intimement liées.
Ah moi quand j'écris, je parle et puis là je suis là, il y aura pas l'image.
Il y aura pas l'image.
Là j'ai tous mes petits Playmobil qui sont à côté de moi parce que j'ai tous mes voilà, je sors d'une branchie. Je parle et j'ai mon petit théâtre à côté de moi, j'ai tous mes Playmobil, je m'enregistre très régulièrement. Et puis après, je dépose mon téléphone et j'écoute en regardant tous mes petits Playmobil. Enfin oui, c'est très oral. La part écrite, enfin, je passe par l'écrit en même temps que j'écris. C'est-à-dire que je commence pas par m'enregistrer, ça passe d'abord par l'écrit, mais c'est retravailler jusqu'à ce que ça. Je n'écrirais pas de la même manière si je n'avais pas moi mis mon corps à la place de la comédienne, du comédien. J'écris vraiment avec ce que j'ai appris au conservatoire, avec le souffle, avec le rythme, avec la langue, avec tout ça. C'est physique, c'est très physique l'écriture.
Finalement, est-ce qu'on pourrait dire que l'intime devient politique ? L'intime, ce serait ton écriture, et elle devient politique parce que tu la montres aux autres, et que du coup, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dissocier l'écriture de la mise en scène du théâtre.
Je pense que ça peut être dissocié. Je crois qu'Émile Lanceman serait très content que je dise que ça peut être dissocié, parce que lui, il se bataille vraiment pour dire le théâtre, ça se lit aussi. Mais par contre, dans le fait de partage, mais ça, est-ce que quelqu'un qui écrit un roman ne le fait pas aussi pour que ça soit partagé, et au fond, ne le fait pas aussi de manière... Même quelqu'un qui va écrire une autobiographie, je ne sais plus qui disait le miracle de l'autobiographie, que quand on lit l'autobiographie de quelqu'un, on cherche tout le temps à se reconnaître soi. Donc, en fait, dans tous les arts, mais même dans la musique, en fait, même je pense quelqu'un qui apprend le violon tout seul puis qui tout à coup va aller dans la rue et va faire un morceau de violon, il y a aussi cette espèce de volonté de toucher, de s'approcher du sensible. Et oui, ça, d'une certaine manière, c'est politique. Alors après, bon, alors avec Les Yeux Noirs qui parlent tellement de violence, c'est clair qu'il y a quelque chose de... Puis on a, enfin voilà, quand on a créé des stèles, je sais pas si tu sais, ça, des stèles qui portent à la mémoire des femmes victimes de féminicide. Autour de ça, on jouait le spectacle. On faisait venir les ados voir ce spectacle. Et puis après, en espérant que les ados viennent à l'inauguration des stèles. Enfin oui, évidemment, il y a un désir politique derrière. Maintenant, j'essaie de pas trop y croire parce que ça fait des dégringolades après. Parce que c'est pas, enfin, on peut pas changer le monde. On peut juste essayer de vivre dans ce monde. Mais oui, il y a un désir poétique. Le beau lapsus. Il y a un désir politique qui passe par la poésie, sans doute. Que la politique devienne poétique, ça serait merveilleux. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait le temps et qu'elle le prenne et qu'elle l'octroie. Et ça, c'est un autre débat.
Mais comment écris-tu ? D'où te vient l'inspiration ?
Du vide. J'ai besoin d'espace pour écrire. D'espace, de temps, de silence. Je coupe mon téléphone dès le matin. Je me lève, je l'ouvre, je vois si j'ai pas de message. Puis jusqu'à midi, je le coupe. Et je fais la même chose l'après-midi. Du vide, de l'espace, du temps, de la disponibilité. C'est pour ça que moi, un rendez-vous à 17h30, ça me va très bien. Parce que ça me laisse ma journée de vide et de tranquillité. Et après, dans ce vide, c'est pas à pas. Là, je suis occupée d'écrire un texte depuis 3 ans avec mes petits Playmobil. Qui est, je pense, le texte le plus difficile que j'ai jamais écrit. Et je sais moi-même pas où je vais. Je sais de quoi ça parle, mais je ne sais pas comment je le raconte et où je vais. Et c'est vraiment par petite énigme. Et puis tout à coup, par exemple, j'ai un personnage là dans ce texte qui a déliré, qui a vécu une psychose, et dans cette psychose qui a dit qu'elle écrivait une thèse avec Napoléon pour empêcher la guerre. Et puis je me dis, mais c'est quoi cette guerre dont elle parle ? Et puis voilà, là, ça, au bout de 3 ans, je me dis, OK, en fait, là, cette guerre dont elle parle, c'est son enfance. Il y a un truc dans son enfance qui l'a bombardée, mais c'est quoi ? C'est quoi cette guerre qui la bombarde ? Et boum, boum, et c'est vraiment des... Je ne sais pas ce que j'écris quand j'écris, et si je le savais, ça ne m'intéresserait pas. Vraiment, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est d'avancer dans une énigme, tout doucement, mais c'est particulier, hein, comme vie. Ma vie, c'est ça.
C'est une vie solitaire ?
Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'accompagné faire la mise en scène. Parce que sinon, en plus, ça me plaît tellement, cette solitude-là me plaît tellement que je pourrais m'y abandonner complètement. Mais oui, c'est très solitaire. Bah, j'ai des petits textes. Je n'ose pas trop tourner mon téléphone parce que j'ai mes câbles, mon ordinateur, mais j'ai une petite Marguerite Duras juste devant moi qui dit « La solitude, ça veut dire aussi ou la mort ou le livre ». J'adore, ça c'est dans mon bureau, c'est juste au-dessus de mon bureau. Puis là, j'ai un autre truc de Marguerite Duras qui dit « Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais, ça ne serait pas la peine ». J'adore Marguerite Duras, c'est mon idole.
Tu parlais du groupe, est-ce que du coup tu peux nous évoquer un petit peu la compagnie de la Bête Noire, comment elle a été fondée, comment ça s'est mis en place ?
Ça s'est mis en place à partir de Le Hibou, donc ce fameux texte que j'avais écrit et mis en scène dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Et le fait qu'il était pris par le Zététique et tout ça, et que moi, d'assister à ça, et de voir aussi, parce que le Zététique organisait des rencontres et des bords de scène à l'issue des représentations, ça parlait d'inceste, le Hibou. Et moi, d'assister à ces rencontres et tout ça, je me suis dit, parce que j'ai toujours aimé le social aussi, et ça faisait partie dans tous mes désirs. Là, moi, j'avais aussi, je me voyais aussi très, très bien travailler en institution avec des gamins placés par le juge. Et, enfin, j'aurais tout à fait pu faire cette vie-là aussi, quoi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de bénévolat et parfois, ça m'arrive, je me réveille et ça manque. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous à faire des spectacles, quoi, alors qu'il y a des gens qui opèrent à cœur ouvert. Enfin, il y a des choses à faire sur le terrain. Et donc, bref, quand j'avais assisté à ces rencontres autour de l'inceste, notamment avec des adolescents et tout, et des associations, je me suis dit, mais en fait, ça c'est génial, ça rassemble tout, ça rassemble l'écriture, ça rassemble l'artistique, ça rassemble le travail de compagnie, et ça rassemble les associations, les gens de terrain qui travaillent dans le social, parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de les rencontrer eux et de rencontrer leur réalité, quoi. Et donc moi, quand j'assistais à tout ça, c'était clair que je voulais faire ça de ma vie, écrire, mettre en scène, organiser des rencontres à l'issue des représentations. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Et ça fait du bien de se le rappeler d'ailleurs, 15 ans plus tard. et alors, attends, je m'égare. La compagnie, bah donc la compagnie est venue assez naturellement comme ça. Il y avait dans Le Hibou, bah, Sébastien Bonamy qui jouait avec moi dans Les Yeux Noirs jouait dans Le Hibou. Et il y avait aussi Charlotte Villalonga, ils étaient quatre. Il y avait aussi Émilie Puy et Grégoire Fassbender. Et Charlotte Villalonga, elle sortait du conservatoire un an après moi. Et on avait dit comment on va s'en sortir de pacte qui disait qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, qu'on nous soutienne ou qu'on ne nous soutienne pas, qu'on réussisse ou qu'on se casse la gueule, on travaille ensemble pendant 10 ans. Et donc, on avait ce pacte qui a fait que, franchement, moi qui m'a permis de pouvoir créer des spectacles, parce que j'avais cette sécurité de, ok, même si on n'a pas de coproducteur, même s'il n'y a pas de théâtre qui achète le spectacle, même si, en fait, on va le faire, et Charlotte, elle sera là. Et elle, inversement, elle avait le, moi, ça va peut-être me permettre de lancer ma carrière, entre guillemets, de comédienne. Enfin, et donc, ça a fait comme ça. Les 2-3 premiers spectacles de la compagnie, on n'avait pas un bal. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Et puis, en 2014, ça a été la première grosse coproduction avec des vrais coproducteurs. C'était Eclipse Total. Et puis Charlotte, elle avait le rôle principal de ce spectacle. Et puis elle l'a encore eu dans Le Vent Souffle sur Herzébeth. Elle l'a encore eu. Enfin, voilà, on a travaillé ensemble pendant 10 ans à partir de ce pacte, quoi. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, allez, viens, on le re-signe. Et puis elle m'a dit, mais Céline, on n'a pas besoin de signer un papier. Parce que la première fois, c'est ce qu'on avait fait un petit peu saoul dans un bar. Et puis là, elle m'a dit, mais on n'a pas besoin de signer un papier, on le sait, en fait. Et puis, elle m'a dit aussi, il ne faut pas que ça nous emprisonne et qu'on se sente obligé et qu'à un moment donné, on fasse les choses par obligation. Et donc voilà, là, par exemple, la semaine prochaine, j'organise un laboratoire autour de ce texte si compliqué. Et puis, elle va faire l'assistante à côté de moi. Donc, voilà, c'est aussi, pour moi, la compagnie, c'est Lydie Amici qui travaille avec moi à l'administration. Et c'est Charlotte. Et puis après, il y a toutes les personnes un peu récurrentes avec qui je travaille régulièrement, comme Pierre Kiesling, qui est le créateur sonore, le musicien, Thibaut de Coster et Charlie Kleinerman, qui sont des scénographes costumiers et qui ont aussi construit avec moi les stèles. Il y a Aurélie Perret qui fait la lumière, les créations lumière des spectacles. Enfin voilà, c'est tout des. la compagnie, c'est Charlotte, Lydie et les créateurs habituels, quoi.
Et tu parlais de l'inceste. Est-ce que vous avez d'autres thématiques que vous avez développées ou vous souhaitez développer?
Mais donc, le hibou, c'était l'inceste. Il y a eu un spectacle sur l'accompagnement dans la mort quand on a un proche qui est atteint d'une maladie incurable. Éclipse totale, ça parlait du suicide. Oui, c'est toujours été assez joyeux. Mais petit à petit, ça a changé. Enfin, je pense qu'on est passé de la fatalité à une recherche de quelque chose comme, ah, voilà, après il y a eu les enfants placés par le juge, c'était déjà plus la fatalité, c'était plus déjà est-ce qu'il y a une porte ouverte quelque part, quoi. Comment, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on est passé de comment changer le monde à comment vivre dans ce monde. Je pense qu'on est vraiment, il y a les enfants placés par le juge, la question de la folie aussi, elle est beaucoup 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 présente. La folie, la norme, et cette question de la norme, c'est, même dans l'enfant sauvage, c'est une question d'écrasement par la norme, en fait. Les procédures, les formulaires qui font tout à coup un enfant devient un dossier. Enfin, à cheval sur le dos des oiseaux, ça parle de ça aussi, mais c'est la question de la précarité. Mais comment notre système fabrique du handicap à partir de la précarité? Il y avait une étude d'Alice Romainville de l'Observatoire des inégalités qui disait 80% des enfants placés par le E, des enfants qui viennent de milieux précaires étaient en école spécialisée. Non, pardon, 80% des élèves en école spécialisée étaient issus de milieux précaires, dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était une question qui est dans un cheval sur le dos des oiseaux. Après, c'est tout le temps, moi j'ai ces questions-là qui m'habitent et qui font et qui alimentent le geste d'écriture, mais jamais la question elle va se retrouver cache comme ça dans un texte. Mmh. Donc c'est toujours très très c'est toujours par c'est toujours très sensible, en fait. Ça va être plutôt sur un personnage qui est très mal à l'aise, quelqu'un qui va se sentir mal à l'aise d'être là devant cheval sur le dos des oiseaux. C'est ça, c'est juste une femme qui est mal à l'aise, et dans son malaise on comprend toute l'histoire qu'il y a derrière. Là, celui que j'écris maintenant, il parle de camisole chimique. Donc c'est de nouveau autour de la folie, mais c'est aussi comment la société elle éteint, elle étouffe, elle se débarrasse.
Ce sont quand même des sujets liés à des minorités.
Ah ouais.
De genre, de mm-hmm. liés à la santé mentale, c'est des choses dont on ne parle pas souvent, où les gens vivent avec le souci et finalement vivent un peu cachés.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment les minorités écrasées, quoi. C'est cet écrasement. Forcément, c'est à ces corps-là qu'on a envie de donner un peu d'espace. Un peu de respiration, un peu de souffle, un peu de... Oui. Un silence, quoi. Même si sur scène, si on met un silence, là j'ai changé le titre, je l'ai appelé le silence de Claire Lagrange. Parce que je crois que c'est de son silence dont on va parler, en fait.
J'aimerais du coup qu'on reste sur cette question de minorité de genre. Et je me demandais quelle est ta définition du féminisme et comment tu l'incarnes au quotidien.
Le féminisme, c'est tellement un grand mot qui englobe tellement de combats et qui englobe aussi une telle histoire. Il y a eu tellement de... C'est tellement vaste, c'est tellement énorme que moi, c'est clair que je suis une féministe, mais c'est évident. Maintenant, il y a... comment dire ? Je parlais de ça avec une amie récemment qui s'appelle Paola. Et parce que je lui disais, tiens, c'est marrant, j'identifie au sein du mouvement féministe, puisque je suis aussi dans plusieurs, dans plusieurs groupes féministes identifiés comme tels, j'identifie au sein de ces mouvements comme deux sous-groupes. Les, on va dire, qui s'auto-appellent radicales, et c'est-à-dire qu'ils disent, en fait, les mecs, il ne faut même plus en parler, il faut tout couper, il ne faut plus leur laisser la parole, il faut même pas, et celles qui essaient encore de dialoguer. Et moi, je suis encore dans celles qui essaient encore de dialoguer. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, et je trouve que tout est bien, mais c'est clair que moi, c'est le dialogue qui m'intéresse, mais... quand je dis faut en finir avec les bonhommes, c'est aussi faut en finir avec les patrons. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est ce que ça représente dans... Et donc, je suis en train de m'égarer, mais dans ma tête, je vois très bien où je veux arriver, mais je sais pas comment y arriver. Et donc, voilà, bref, je disais à cette amie, tiens, je me demande, qu'est-ce qui est le plus juste, au fond, entre tout couper ou dialoguer? Parce que je comprends pourquoi tout couper à un moment donné, mais est-ce qu'il faut continuer à parler avec Amazon, quoi, enfin, ou à un moment donné, c'est bon, on va au petit magasin du coin et fuck, quoi. Et elle m'a répondu un truc vraiment chouette, cette amie Paola. Elle m'a dit, mais tu sais, ça ne forme qu'une seule chose. C'est comme les syndicats et les grévistes. Les grévistes ne peuvent pas faire grève s'il n'y a pas les syndicats, et les syndicats ne servent à rien s'il n'y a pas les grévistes, quoi. Et donc, en fait, ça ne forme qu'une seule chose. Donc, je sais pas, maintenant, féminisme, je vois ça aussi. Je vois une espèce de grande manifestation dans laquelle Il y a des gens qui font grève de façon radicale, de façon violente, et d'autres qui dialoguent. Et peut-être à peine perdus, peut-être qui s'épuisent pour rien, mais qui dialoguent. Et donc voilà, moi je fais partie de ces féministes qui dialoguent avec les gros patrons.
Tu parlais tout à l'heure de...
Je pense qu'un spectacle, c'est un dialogue. C'est ça aussi que je veux dire, c'est que Les Yeux Noirs, pour moi, c'est encore un dialogue. On m'a parfois dit, mais tu prends trop la défense des gens qui sont violents. Et c'est pas tant que je prends la défense, c'est que je cherche à comprendre d'où vient cette violence. Et parce que j'ai l'impression qu'en comprenant l'origine, parce que là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je lisais le livre de Triste Tigre. Tu l'as lu, ça ?
Pas du tout.
Neige Sino, je pense qu'elle s'appelle. C'est vraiment, vraiment bien. Ça parle d'inceste aussi. C'est vraiment très intéressant. Et elle dit qu'elle en a ras le bol de tous ces trucs qui essaient de comprendre le méchant. Et je comprends ça, mais alors du coup on est dans la fatalité, c'est ça je pense. Et ouais, peut-être que je deviendrai radicale le jour où j'aurai perdu la foi, mais si je perds la foi, je n'écris plus. Donc il y a comme quelque chose de tout ça. Bon, je me suis beaucoup égarée, voilà. Tu verras mon père ce que tu fais de ça.
Du coup, ça me fait penser au moment du bord de scène. Une des personnes a évoqué le fait que tu mettais justement en scène un homme violent qui avait connu la violence dans son enfance. Et cette personne avait aimé que l'homme violent soit représenté. Et je me souviens que tu avais réagi en disant « Oui, il y a eu ce cas de violence dans l'enfance, mais l'adulte reste responsable de ce qu'il devient. »
Bien sûr. Ah ben oui, parce que si on ne peut pas... Évidemment que derrière la violence, il y a un drame. Évidemment, mais ce n'est pas une excuse. On va dire que ça peut être un tremplin pour faire une psychanalyse, peut-être. Mais... Ah ben oui, bien sûr, on reste responsable. Et puis, tous les enfants qui ont assisté à des violences ne deviennent pas violents. Mais ça peut expliquer pour soi-même d'où vient la pulsion de violence. Et je pense que c'est essentiel, tout un chacun, et même à petite échelle. Comme moi, j'ai pu être un peu jalouse, c'est essentiel de faire un travail là-dessus pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ça, et comment ne pas abîmer l'autre, hein. Et la relation, enfin, avec de la merde, parce que c'est que de la merde, même à toute petite échelle, c'est de la merde. Donc, oui, on est responsable. Et même après avoir vécu un drame, même après avoir vécu la guerre, même après avoir vécu, on est responsable de ce qu'on fait subir aux autres. Ouais, ça c'est essentiel, évidemment. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai aimé cette rencontre à Moucron, parce qu'il y a deux personnes qui ont parlé de ça. Tiens, ça vient de me faire... Il y a quelqu'un qui a dit « Je viens de dialoguer pendant 1h30 ou 1h15, je ne sais plus, avec mon propre monstre. » Et donc là, peut-être, c'est un espoir de quelque chose. Et là, c'est sa responsabilité qui dit ça.
Tu parlais tout à l'heure d'un de tes modèles féminins. Est-ce que tu peux développer et peut-être, est-ce que tu en as d'autres ?
Marguerite Duras.
Voilà.
C'est ma mère. Non, je l'adore. Je pense que j'ai quasiment tout lu de Marguerite Duras. J'ai juste gardé Le Marin de Gibraltar pour un jour de grande dépression. Mais donc, j'adore Duras, j'adore ses silences, j'adore sa profondeur, son air de ne pas y toucher. Mais c'est vraiment ses silences. Et puis elle aussi, dans le genre enfance inconsolable, j'ai écrit un texte sur Duras qui parle de ça justement, de ses silences, et un enfant pleure dans chacun de ses silences. Et comme elle essaie de consoler cette peine d'enfant par l'amour et le désir, mais que c'est vain, qu'elle n'y arrivera jamais. Donc Duras, j'adore. Et puis alors là, moi, depuis un an ou deux, je dévore Anne Dufour-Montel, qui est une philosophe et psychanalyste que j'adore, Vraiment, là, je viens de terminer La femme et le sacrifice. C'est vraiment... voilà, donc elle va plutôt être... Elle, vraiment, son grand cheminement, c'est comment... Et dans tous ses bouquins, sa grande ligne directionnelle, c'est comment passer de la fatalité à la liberté. Et donc, comment retrouver sa propre capacité à désirer, à aimer et à vivre, quoi. En gros, pour le résumer, mais elle a notamment écrit L'éloge du risque, qui est un petit bijou, quoi, qui est un coup de fouet. Moi, j'ai lu ça et toutes les personnes à qui je l'ai fait lire ont changé de vie, quoi. Donc, elle, et alors là, récemment, je me suis mise à lire Violette le Duc, que j'avais jamais lu encore. Et j'ai lu, là, j'ai lu, je viens d'enchaîner Thérèse et Isabelle et La Bâtarde. La Bâtarde, c'est vraiment extraordinaire. Et donc là, je viens de commander, non, Ravage, pardon, je viens de commander La Bâtarde. J'ai lu Ravage, que j'ai trouvé aussi, waouh, brillantissime. Et puis sinon, dans mes idoles, je sais pas,
ça peut être des modèles ou...
Des modèles? Non, je sais jamais ce que je pique et ce que je pique. Enfin, ce que j'imprègne, ce que j'imprègne pas. Mais c'est sûr que Duras, je suis imprégnée de ses silences. Ça, c'est évident. Anne Dufour-Mantel, dans le texte que j'écris sur la camisole chimique, c'est clair qu'elle est là, comment sortir de la fatalité, c'est clair qu'elle m'habite, quoi. Violette Le Duc aussi, avec son rapport à sa mère, il y a quelque chose qui habite le texte. Après, c'est un homme, mais quand même, il est formidable, c'est Maurice Maeterlinck, qui est aussi très fort présent avec moi. Dans pas mal de mes textes, voilà.
Est-ce que tu te souviens comment tous ces textes sont arrivés jusqu'à toi? Comment tu as découvert ces femmes? C'est du hasard? C'est des recommandations de personnes que tu connaissais?
Je sais plus. Je pense que Duras, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je lise Duras un jour, mais vraiment en pensant que ça serait un télo et difficile et chiant et que j'y arriverais pas. Et puis en fait, j'ai commencé, et je pense que j'ai très bien fait de commencer par là, par Un barrage contre le Pacifique. Qui, je pense, est le plus facile et le plus abordable. Et donc, à partir de là, ça fait rentrer dans une langue. Et une fois qu'on rentre dans la langue, on peut tout lire Duras. On a compris quelque chose, quoi. Et puis, pareil pour Violette le Duc. Quand je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, bon, il faudra quand même que je lise Violette le Duc avant d'être morte. Mais j'ai été attrapée par ça. Je me suis dit, mais waouh, c'est juste dingue. Tiens, mais d'ailleurs, est-ce que j'ai mis le dernier que j'ai été chercher, là, que j'ai commandé? Bon, bref. Et puis, ouais, Anne Dufour-Mantel, comment je l'ai lu? Anne Dufour-Mantel, j'ai commencé par En cas d'amour. Je me demande si c'était pas au moment d'écrire Les yeux noirs. Et donc, En cas d'amour, c'est plein de petits récits où elle raconte un peu les histoires. C'est un peu comme En thérapie, mais version ouvrage, où elle raconte ses rendez-vous avec ses patients. Et c'est que des histoires qui parlent d'amour. Et puis après, elle parle là-dedans, c'est magnifique, c'est d'une beauté... C'est très, très beau, Anne Dufour-Mantel, parce qu'elle a aussi une langue et elle est pleine de poésie. C'est pas juste un truc, un télo, quoi. Enfin, c'est très beau. Mais alors, d'où ça m'est venu, je sais plus exactement. Parfois, c'est en lisant... je me demande si Violette le Duc, c'est pas Anne Dufour-Mantel qui en parle dans un de ses livres. Mais ça arrive souvent aussi. En lisant un livre, ça parle d'un auteur, d'une autrice, et puis hop, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est un... ouais. Mais heureusement qu'il y a les bouquins. Moi, sans les bouquins, je sais pas trop ce que je ferais de mes soirées.
Il y a d'autres médias qui t'intéressent? Le cinéma, la musique, les séries, les podcasts?
Les séries, j'en regarde pas parce que j'ai peur d'être addict. J'ai peur que ça dévore mon temps, en fait. J'ai besoin de temps pour écrire, donc je m'y suis jamais mise. Les podcasts, oui, j'en écoute. J'écoute quasiment tous les jours Les Pieds sur Terre parce que c'est court. J'aime bien les formats courts. Donc ça, j'écoute en faisant la cuisine. J'ai mes petits rituels. Et le cinéma, j'aime ça, mais j'y vais jamais. Mais ça, c'est juste parce que je suis casanière, je crois. Mais sinon, j'aime ça. J'aime, mais il faut qu'on m'emmène, quoi. Je vais pas penser par moi-même à y aller.
Je te propose une toute dernière question. Donc, le podcast s'appelle Transmission Intime et j'aimerais savoir ce qu'évoque pour toi le mot transmission.
J'avais écrit un texte, ça terminait par la seule chose qui demeure transmissible en ce monde, c'est la recette de la pâte à crêpes. Et c'était un texte qui parlait de la menace de la destruction possible qui allait arriver. Enfin, ça disait, voilà, ça parlait de la violence qui revient, de la montée de l'extrême droite, de tout ça, inscrit dans cette... Je me rappelle plus très bien un texte que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, c'était à partir de là. Je me demande si j'ai pas écrit ça quand Trump est revenu au pouvoir. Et est arrivé au pouvoir, donc, pour la première fois, donc ça date, quoi. Et voilà, ça parlait de cette espèce de chose effroyable et qui continue, et qui continue, et qui continue, et qui ne s'arrête pas. Il y a pas longtemps, c'était l'Argentine, enfin, c'est... Et le silence dans lequel tout ça est pris, et puis la question de l'avortement, toujours les femmes sont derrière, hein, la question de l'avortement, la question de... Donc, ouais, et je me disais, à chaque fois, la question qu'on se pose, mais c'est comment c'est possible avec l'histoire qu'on a? On sait que la destruction, ça ne mène qu'à la destruction. Et donc, ça terminait par la seule chose qui demeure transmissible en ce monde, c'est la recette de la pâte à crêpes. Et c'est un peu fataliste, encore une fois.
Je te remercie beaucoup pour cet échange.
Mais la transmission, c'est une très bonne chose.
Il faut quand même... La transmission de la nourriture.
Non, c'est ça. Non, c'est une très belle chose. Même la transmission par les livres, la transmission par les échanges, par les rencontres, c'est essentiel, évidemment. Derrière la fatalité, il y a d'autres choses.
Merci beaucoup, Céline, pour ce moment.
Merci aussi.
Belle soirée à toi.
Bonne soirée.
Il ne peut être fait mention des violences conjugales à Moucron sans parler de l'association de mot à mot. Elle est un acteur incontournable dans la prise en charge et la reconstruction des victimes. J'ai rencontré sa fondatrice et présidente, Cindy Rensky. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Bienvenue dans Transmission Intime.
Merci pour l'accueil.
Je propose qu'on commence tout simplement par les présentations.
Ok, ça marche. Alors, je suis Cindy, la fondatrice de l'association de mots à mots ASBL, qui vient en aide aux victimes de violences, donc toute forme, donc qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques, économiques ou sociales, avec un cheval de bataille plus particulier, je l'avoue, pour les victimes de violences sexuelles et d'inceste.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer la naissance du projet ?
Alors, la naissance du projet, elle part d'un constat personnel, donc d'un vécu. J'ai été victime d'inceste, mais très jeune. Et finalement, on vit, on doit se construire avec ça, avec parfois pas la reconnaissance de la justice, pas spécialement de reconnaissance de l'entourage. Et effectivement, c'est un parcours qui est très difficile et qui amène parfois à un craquage, comme moi je l'ai eu à l'âge de 36 ans. Et là, ce craquage me prouve une fois de plus que finalement, l'encadrement pour les victimes de violences sexuelles et plus particulièrement d'inceste pendant l'enfance qui ont dû grandir et se construire avec ça, il y a un manque quelque part. Donc il y a bien les services de première ligne, mais après ça, il y a un vide. Et donc les psychologues, les médecins ont tendance à dire il faudrait peut-être aller voir une association, un endroit pour pouvoir en parler, tout ça, pour avancer. Et le constat, il est que il n'y en a pas. Donc, comme il n'y en a pas, il faut faire quelque chose. Et tout le chemin de la reconstruction, forcément, prend du temps. Et je reprends des études en père et danse afin de pouvoir devenir une experte de vécu. C'est un peu ça ce que veut dire la père et danse, pouvoir entendre des discours d'autres victimes, mais avec une vision plus professionnelle. Et à ce moment-là, en 2019, naît l'association de mots à mots ASBL.
Et comment a évolué, du coup, cet asso ?
Alors, cet asso, elle a été accueillie à bras ouverts dans un premier temps par le CHM. Donc, en 2019, on a une salle qui est mise à disposition pour faire des groupes de parole, pour pouvoir accueillir des gens en entretien individuel. Donc, dans ce cas-là, au début, uniquement des victimes de violences sexuelles et d'inceste, donc toujours adultes, je précise, on n'accueille pas d'enfants. Et au fur et à mesure du temps, on est convoqué par de plus en plus de professionnels, de services qui renvoient vers nous et qui commencent à nous envoyer également des victimes de violences intrafamiliales, conjugales, physiques, psychologiques. Et le constat, il est que les conséquences, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, elles sont là quand même. Donc, continuer à se former, évoluer et faire de ce service, finalement, de cette association, quelque chose de pluridisciplinaire qui peut accompagner toutes les victimes. Et là, depuis septembre, on a la chance d'avoir le premier centre d'accueil, d'écoute et de soins en Wallonie-Picarde, qui est de mot à mot centre d'accueil, d'écoute et de soins dédié à toutes les victimes de violences.
Et vous bossez à combien dans cet asso ?
Alors, on tient l'asso à bout de bras à demi-temps. Et il ne faut surtout pas les oublier parce qu'elles sont précieuses et elles sont importantes. Il y a énormément de volontaires, de bénévoles qui sont professionnalisés donc, dans différents axes, que ce soit le secrétariat, que ce soit la comptabilité, que ce soit des réflexologues, des sophrologues, des personnes qui donnent des soins, des massages, des personnes au niveau juridique qui interviennent, des avocats qui donnent de leur temps, des médecins, des psychologues et nous avons également l'occasion de financer des soins psychologiques, donc avec une psychologue qui est indépendante du coup, et nous finançons les soins des victimes à hauteur pour commencer de 10 séances et après revoir en équipe si il y a possibilité parce qu'on a de très très faibles moyens.
Est-ce que tu pourrais, pour qu'on se rende compte de ton quotidien, nous expliquer une journée type ?
Alors, une journée type, pour moi, ça commence si on est...
Et on sait que tu es normalement, du coup, à mi-temps.
Comment ?
Tu es à mi-temps.
Oui, je suis à mi-temps et effectivement, donc du coup, j'ai un autre emploi à côté, donc on va l'intégrer sans le citer. La journée, si on est gentil, elle commence à 6h du matin, donc jusque 8h, ça va être tout ce qui est plutôt administratif, répondre aussi aux messages qui seraient éventuellement arrivés pendant la nuit, auxquels bien souvent je les capte, mais pas toujours. Donc répondre à ces messages-là, regarder s'il faut faire une communication sur les réseaux, s'il y a quelque chose qui se passe à l'assaut, voilà. Communiquer, répondre aux quelques mails de la veille pour lesquels je n'ai pas eu le temps. À 8h commence ma première journée de travail pour mon autre employeur qui se termine à 13h. À 13h, je prends ma voiture et je commence de l'autre côté directement, le temps de faire la route. Forcément, il faut aller 10 minutes, un quart d'heure, le temps de tout allumer. À 13h30, c'est le rôle à l'assaut, donc c'est soit accueillir en permanence, donc les lundis, les mercredis après-midi, les vendredis matin, c'est en permanence. Le vendredi matin, le seul jour où je suis présente à l'assaut. Après, il y a aussi les rendez-vous qui se passent en individuel. Donc ça, ce sont des rendez-vous qui sont calés les mardis, les jeudis, donc les autres jours de la semaine en après-midi libre. Donc le soir arrive, généralement, je quitte, il est entre 17h30, 18h30, sauf le mercredi où quand il y a des groupes à projet où là, c'est 21h. Et puis après, c'est le reste de la journée. Donc tout ce qui est forcément, quand on tient un service à demi temps, il y a des ressources humaines, il y a de la gestion administrative, il y a aller chercher des fonds, remplir des demandes de subventions, écouter, répondre aux victimes, répondre au téléphone, ça c'est je crois que c'est toute la semaine et beaucoup beaucoup d'heures dans la journée aussi, faire les relais vers les professionnels, mettre des actions en place parce qu'on met aussi beaucoup d'actions de sensibilisation. Donc une journée type pour moi, elle commence à 6h et elle se termine à 21h30 si on est gentil.
Voilà. Comment tu vois le futur de l'asso ? Quel constat peut-être tu peux déjà tirer ? Qu'est-ce que tu aimerais ?
La pérennisation déjà de cette structure, parce que là on sait très bien qu'au mois de mai ici, ben voilà, tout peut s'arrêter. Après, on va pas arrêter l'asso, c'est pas ça, c'est le financement peut s'arrêter. Donc pendant 4 années, j'ai fonctionné de manière tout à fait bénévole, comme toutes les autres qui sont encore là aujourd'hui dans l'asso. C'est quand même quelque part une injustice de pallier à un manque aussi criant que celui-là et de dire ben, on va arrêter. Donc non, c'est pérenniser la structure, la faire fonctionner, proposer plus de permanence, au moins pouvoir avoir quelqu'un qui soit au moins, au minimum avoir 2 temps pleins. Je pense que c'est pas du tout déraisonnable que de penser ça pour un service tel que celui-là. Et après, ben, essayer de multiplier cette structure, parce qu'on voit, on parle beaucoup de notre asso en ce moment, et c'est une chance aussi, mais je suis interpellée par des personnes de Bruxelles, la dernière fois du Luxembourg, en disant, mais il n'y a pas ça chez nous, donc comment on fait ? Donc essayer de former des gens, parce que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces, sur les bases déjà de mes besoins, de mes ressentis, mais qui continue à être travaillé selon les besoins des victimes, donc ce qu'elles ont besoin, à quel moment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc développer cette structure au maximum pour qu'elle devienne la plus performante possible en matière de prise en charge.
On entend beaucoup parler en ce moment des CPVS, donc c'est les centres de prise en charge des violences sexuelles. Est-ce que de mot à mot s'approche de cette structure, quelles sont les différences ?
Alors, elle ne s'approche pas du tout parce que le CPVS est bien un service de première ligne. C'est vraiment primordial de développer des CPVS, non pas à 1 heure de distance de chaque habitant, mais dans chaque ville, parce qu'on sait que voilà, 1 femme sur 5 au cours de sa vie sera victime de viol. Là-dedans, je n'oublie pas les hommes, ce sera 1 homme sur 10 qui sera victime d'inceste. Donc les CPVS accueillent tout public. on estime réellement être une suite logique à la prise en charge des CPVS. Donc, c'est-à-dire qu'on a un service de première ligne qui est ultra compétent, où on retrouve les psychologues, la justice, la police, le service social aussi pour l'accompagnement administratif. Et puis après, ben, voilà, cet accompagnement arrive à un moment, il s'arrête. Donc la suite logique est d'arriver dans une structure comme la nôtre pour pouvoir enfin se reconstruire quand le gros du dossier est passé. Parce que ce n'est pas en 3 mois qu'on se reconstruit. La justice ne donne pas une réponse en 3 mois non plus. Donc voilà, il faut pouvoir travailler sur la continuité de ce service-là.
Alors concrètement, si je suis une femme qui subit des violences conjugales, ou si je connais une femme, qu'est-ce que je peux faire concrètement ici sur le territoire moucronois ?
Alors déjà, la première chose, c'est entendre. Le « je te crois », il est important. Ne pas dire de tourner la page. Donc il y a plein de services. Donc les priorités, elles sont à gérer selon ce qu'on voit et ce qu'on constate. C'est vrai que souvent, on a tendance à réagir beaucoup plus vite à une violence qu'on voit. Donc on parlera de la violence physique, quelqu'un qui a des coups. Mais voilà, on le voit, l'envoyer vers un médecin qui pourra faire un constat de lésion, les services de police. Parfois, les gens sont plus réticents à directement aller porter plainte. Il y a un service d'assistance policière aux victimes qui est exceptionnel ici à Moucron. Ils sont à l'écoute, ils peuvent donner du relais. C'est quelque chose qui n'engage à rien. En fait, il n'y a pas de démarche, mais on peut aller voir, on peut se faire accompagner déjà par ces personnes. Donc ça, c'est relayé. La même chose pour toute forme de violence. La priorité, c'est de proposer à la personne de dire « Mais est-ce que tu ne veux pas voir un médecin ? Est-ce que tu ne veux pas aller voir ce service d'aide aux victimes ? Est-ce que tu as envie de déposer plainte ?» Savoir ce qu'elle a envie et besoin de faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a généralement la peur, la honte, l'envie de cacher justement ce que cette personne vit et le besoin de dire non, j'ai pas envie d'alarmer tout le monde. Et après, si la personne ne souhaite pas se faire accompagner par ses services de première ligne, comme on dit vraiment, mais il y a toujours moyen de rediriger vers l'association en disant mais écoute, là, tu dois même pas réfléchir. Quand tu sens le besoin d'aller, va vers cette association. Il y a des permanences. Tu dois pas prendre rendez-vous. Donc voilà, il y a plein de choses à faire quand on est confronté. Et on dit toujours, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui subit des violences. Parce que c'est partout autour de nous. Ça touche toutes les classes sociales. Ça touche énormément de femmes autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Et parfois, il y a des signaux d'alerte. Donc déjà, je t'entends, je te crois. Et alors, essayer de faire un maximum pour rediriger vers les services, c'est vraiment la priorité.
Tu parlais tout à l'heure d'une femme sur 5 qui était est ou qui pourrait être victime de...
Voilà, de violences, généralement, ça se confirme dans les violences sexuelles, mais ça se confirme aussi dans les violences conjugales et qu'elles soient physiques, psychologiques. Donc il y a énormément de femmes qui sont confrontées à ça. Par contre, on constate qu'il y a le chiffre noir, donc on a du mal à avoir des statistiques. Aujourd'hui, la Belgique n'est clairement pas au point avec le retour de statistiques parce qu'il n'y a pas assez d'études approfondies. Donc on a ce chiffre noir qui est énorme. Et aujourd'hui, on se base sur le chiffre forcément des personnes qui déposent plainte, pour lesquelles il y aurait éventuellement un jugement ou quelque chose qui arrive. Et ça ne donne pas du tout la réalité des faits. Donc, si on compte une femme sur 5, dans une pièce, dans une classe, pour les enfants, c'est la même chose. On dit 2 enfants victimes sur une classe de 28. C'est énorme. Je pense que chaque prof qui pourra entendre ce témoignage représentera sa classe en se disant « j'en ai au minimum 2 dans ma classe ». Le Conseil de l'Europe fait le même constat, 1 personne sur 5. Donc c'est énorme et on n'a pas de réalité de ces chiffres parce que malheureusement, on sait qu'il y a la crainte de la justice, la honte, la peur de l'auteur qui reste là néanmoins. Parce que si on est victime de violences conjugales et qu'on doit aller déposer une plainte, et alors on vit sous le même toit, eh bien, il n'y a rien qui dit que l'auteur va être écarté du domicile. Donc, il faut rentrer. Lui sera interpellé par la police. Donc, forcément, il va savoir qu'on a déposé une plainte. Donc, tout ça augmente ce phénomène de peur. Et puis, ça bloque quelque part. Donc, on doit développer d'autres mesures. Je pense que quand quelqu'un subit ça, il faut pouvoir en parler, décanter la situation. Et il arrive un moment où la personne dit, ben voilà, je veux partir, nous on accompagne à rechercher du logement, du relogement, pour qu'après, collecter les preuves pour que cette personne puisse porter plainte au moment où elle est en sécurité. Parce que sinon, effectivement, ça peut être dangereux. Et on sait que le moment de la séparation est le moment le plus critique quand on entend parler de féminicide. Mais généralement, quand on entend, ben, c'est un ex-compagnon, ou alors on dit c'est une séparation qui se passe mal. Non, c'est pas une séparation qui se passe mal, c'est un féminicide. Il l'a tué tellement il voulait pas qu'elle s'en aille, il voulait continuer son mécanisme d'emprise. Donc il y a tous ces blocages-là qui agissent.
Est-ce que pour toi, le terme féminicide est enfin entré dans le langage courant ? Ou est-ce qu'on va encore parler de crime passionnel de...
Trop, à mon sens, trop. Parce qu'effectivement, il est entré dans le code. Et ça, c'est une victoire, vraiment. Mais par contre, si on entend, il suffit d'allumer la télé et de regarder le journal, c'est un crime passionnel, c'est une histoire de couple qui a mal tourné, c'est une dispute de couple, c'est un drame familial... Mais non, c'est un féminicide, en réalité. Donc non, dans le langage courant, c'est pas encore acquis du tout. On a encore beaucoup de travail là-dessus.
Alors j'aimerais un petit peu basculer sur une partie plus personnelle. J'aimerais déjà savoir comment toi tu vis cette position au sein de l'asso, parce que t'es quand même confrontée à beaucoup de violences. Et comment, à titre personnel, tu arrives à gérer, ou qu'est-ce qui pourrait t'aider à continuer cette mission qui est pas évidente tous les jours.
Alors, ça c'est en fait, en réalité, je pense que j'y réfléchis pas et j'y pense pas. J'ai cette capacité, parce que justement, le fait d'avoir repris des études en pérédance, d'avoir fait des formations, me permet d'avoir un certain recul. Donc, ce qui fait que quand je rentre chez moi, je ne rentre pas chez moi avec les problèmes des gens. Même si c'est harassant, c'est fatigant, on a forcément par moments l'effet miroir, donc on est touché, on reste des êtres humains malgré tout. Mais ça me permet de prendre de la distance quand même par rapport à ça. Et je sais que ce qu'on fait là est nécessaire. Et que bien souvent... On a des demandes de bénévoles qui disent, moi j'aimerais entendre les gens pour une première fois. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement bloqué. Tant que la personne n'est pas formée chez nous, il n'y a personne qui remplacera ça. Parce qu'il y a une façon de poser des questions, il y a une façon d'entendre un récit. Mais finalement, sur la durée, bien effectivement, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu social et en lien direct avec des victimes portent ce poids aussi, finalement. On ne peut pas se voiler la face, même si on dit on a un recul professionnel. Bien sûr que c'est fatigant, c'est épuisant. Moralement, parfois, on a tendance aussi à être démoralisé par rapport à des choses où on s'est dit, ça va bien se passer, ce jugement doit avoir lieu, il va avoir une mesure d'écartement, elle va avoir une certaine reconnaissance de la justice. Parce que on ne doit pas partir de la justice pour se reconstruire. C'est une démarche personnelle, mais c'est parfois aussi une certaine reconnaissance du statut de victime. Donc, nous aussi, par moments, on est complètement désarmés par rapport au système. Et ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le cacher.
Comment tu définirais ton féminisme et comment tu le vis au quotidien ?
Alors, mon féminisme totalement égalitaire, donc un féminisme ni extrême, ni je ne me vois pas dire je ne suis pas féministe, je ne vois pas pourquoi je dirais ça d'ailleurs, mais un féminisme égalitaire, donc vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Et comment je le vis au quotidien ? Ben simplement en faisant passer des messages simples, parce que souvent on a cette phrase ça va un peu mieux parce qu'il a dit qu'il allait m'aider. Et là, à ce moment-là, moi, de dire, en fait, c'est pas qu'il t'aide, c'est qu'il fait sa part, c'est que c'est juste. Donc, c'est aussi, pour moi, le féminisme, c'est planter des petites graines, faire changer les mentalités, sans pour autant apporter de la violence sur un jugement, parce que je pense que le féminisme, il est quelque part ancré en chaque femme, mais à des niveaux différents. Et tous sont respectables, mais on ne peut pas l'imposer à l'autre. Donc, quand il y a une pensée qui arrive, j'essaie généralement de tempérer en disant, tu as ton idée, ok, je peux comprendre ce que tu dis, ça évoluera peut-être après avec peut-être un témoignage, peut-être quelque chose qui s'est passé ou qui s'est produit, et en disant, ben voilà, quelqu'un qui dit, moi je ne conçois pas qu'une femme sorte en mini-jupe avec un croc-top, par exemple, voilà, même si dans ma tête je ne me représente pas trop ce que c'est un croc-top, mais c'est pas grave, je sais que c'est quelque chose de plus court, et moi je trouve qu'elle devrait quand même faire attention, et puis on entend un fait, voilà, de mœurs en disant, mais cette jeune fille a subi un viol et la question qu'on lui a posée, c'est qu'est-ce que tu portais ce jour-là? Et là, la même personne, si on en reparle, elle pourrait dire, mais c'est quand même inadmissible qu'on lui ait demandé ça. Je dis, oui, mais en contrepartie, il y a autant de temps, tu vois, tu me disais, bah, je trouve ça inadmissible. Donc, quelque part, c'est que tu cautionnais. Donc là, est-ce que tu ne cautionnes plus? C'est surtout ça, c'est un peu le principe de l'éducation permanente, prendre conscience des réalités qui nous entourent et aussi pouvoir avancer là-dessus.
Et toute dernière question, la question rituelle. Que signifie pour toi le mot transmission? Quelle définition tu lui donnes ou quel objet, quelle idée?
Eh ben, transmission, pour moi, ce sera les petites graines à planter un peu partout, sans violence, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, mais transmission, planter des petites graines un peu partout.
Merci beaucoup, Cindy.
Merci, Gwenaëlle.
Ce podcast est produit par le Centre culturel de Moucron, sous la direction de Maud Mallet, contenu et rédaction Gwenaëlle Robert, prise de son Antoine Desmond, Bauduin Depré et Thierry Arduin, montage Thierry Arduin, identité visuelle Hélène Mie, identité sonore Nick Talop, en partenariat avec RQC. Retrouvez Transmission Intime sur Instagram et Facebook, et pour nous contacter, une seule adresse, transmissionintimelepodcast@gmail.com. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt pour un nouvel épisode de Transmission Intime.